Chapitre 6, 26 août. Ce jour, oh, ce jour unique que j'implorais, ne m'a pas été donné. Ma courte faiblesse n'a pas attendu longtemps l'expiation qui sera longue. Comment l'avais-je oublié ? Dans l'ordre moral, comme dans l'autre, il y a des lois que nous ne transgressons jamais impunément et dont les effets certains forment en ce monde l'intervention permanente de ce qu'on nomme la Providence. Un homme faible et grand, écrivant d'une main presque folle l'évangile d'un sage, disait de ses passions mêmes qui firent sa misère, son opprobre et son génie, « Toutes sont bonnes quand on reste le maître, toutes sont mauvaises quand on s'en laisse assujettir. Ce qui nous est défendu par la nature, c'est d'étendre nos attachements plus loin que nos forces. » Ce qui nous est défendu par la raison, c'est de vouloir ce que nous ne pouvons obtenir. Ce qui nous est défendu par la conscience n'est pas d'être tenté, mais de nous laisser vaincre aux tentations. Il ne dépend pas de nous d'avoir ou de n'avoir pas de passion, il dépend de nous de régner sur elle. Tous les sentiments que nous dominons sont légitimes et tous ceux qui nous dominent sont criminels. N'attache ton cœur qu'à la beauté qui ne périt point, que ta condition borne tes désirs, que tes devoirs aillent avant tes passions, étant la loi de la nécessité aux choses morales. Apprends à perdre ce qui peut être enlevé et apprends à tout quitter quand la vertu l'ordonne. Oui, telle est la loi. Je la connaissais. Je l'ai violé, je suis puni, rien de plus juste. J'avais à peine posé le pied sur le nuage de ce fol amour que j'en étais précipité violemment et j'ai à peine recouvré, après 5 jours, le courage nécessaire pour retracer les circonstances presque ridicules de ma chute. Mademoiselle Madame Larocque et sa fille étaient parties dès le matin pour aller faire une visite nouvelle à Madame de Saint-Caste et ramener ensuite Madame Aubry. Je trouvais Mademoiselle Éloin seule au château. Je lui apportais un trimestre de sa pension, car bien que mes fonctions me laissent en général tout à fait étranger à la tenue et à la discipline intérieure de la maison, ces dames ont désiré, par égard sans doute pour Mademoiselle Caroline comme pour moi, que ses appointements et les miens fussent payés exceptionnellement de ma main. La jeune demoiselle se tenait dans le petit boudoir qui est contigu au salon. Elle me reçut avec une douceur pensive qui me toucha. J'éprouvais moi-même en ce moment cette plénitude de cœur qui dispose à la confiance et à la bonté. Je résolus, en vrai Don Quichotte, de tendre une main secourable à cette pauvre isolée. « Mademoiselle, lui dis-je tout à coup, vous m'avez retiré votre amitié, mais la mienne vous est restée tout entière. Me permettez-vous de vous en donner une preuve ?» Elle me regarda et murmura un oui timide. « Eh bien, ma pauvre enfant, vous vous perdez. » Elle se leva brusquement. « Vous m'avez vu cette nuit dans le parc ? » s'écria-t-elle. « Oui, mademoiselle. Mon Dieu !» Elle fit un pas vers moi. « Monsieur Maxime, je vous jure que je suis une honnête fille. Oh, »« Je le crois, mademoiselle, mais je dois vous dire que dans ce petit roman, sans doute très innocent de votre part, mais qu'il est peut-être moins de l'autre, vous aventurez très gravement votre réputation et votre repos. » « Je vous supplie d'y réfléchir et je vous supplie en même temps d'être bien assuré que personne autre que vous n'entendra jamais un mot de ma bouche sur ce sujet. » J'allais me retirer, elle s'affaissa sur ses genoux près d'un canapé et éclata en sanglots, le front appuyé sur ma main qu'elle avait saisie. J'avais vu couler, il y avait peu de temps, des larmes plus belles et plus dignes, cependant j'étais ému. Voyons, ma chère demoiselle, lui dis-je, il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ? Elle secoua la tête avec force. Eh bien, ma chère enfant, prenez courage. Nous vous sauverons, allez. Que puis-je faire pour vous, voyons ? Y a-t-il entre les mains de cet homme quelques gages, quelques lettres que je puisse lui redemander de votre part ? Disposez de moi comme d'un frère. Elle quitta ma main avec colère. « Oh, que vous êtes dur !» dit-elle. « Vous parlez de me sauver, mais c'est vous qui me perdez. Après avoir feint de m'aimer, vous m'avez repoussé, vous m'avez humilié, désespéré. Mais vous êtes la cause unique de ce qui m'arrive. Oh, mademoiselle, vous n'êtes pas juste. Je n'ai jamais feint de vous aimer. » J'ai eu pour vous une affection très sincère que j'ai encore. J'avoue que votre beauté, votre esprit, vos talents vous donnent parfaitement le droit d'attendre de ceux qui vivent près de vous quelque chose de plus qu'une fraternelle amitié. Mais ma situation dans le monde, les devoirs de famille qui me sont imposés ne me permettaient pas de dépasser cette mesure vis-à-vis de vous sans manquer à toute probité. Je vous dis franchement que je vous trouve charmante, et je vous assure qu'en tenant mes sentiments pour vous dans la limite que la loyauté me commandait, je n'ai pas été sans mérite. Je ne vois rien là de fort humiliant pour vous, ce qui pourrait être plus juste titre, vous humilier, mademoiselle. Ce serait de vous voir aimer très résolument par un homme très résolu à ne pas vous épouser. Elle me jeta un mauvais regard. « Qu'en savez-vous » dit-elle, « tous les hommes ne sont pas des coureurs de fortune. »« Ah, est-ce que vous seriez une méchante petite personne, mademoiselle est loin ?» lui dis-je avec beaucoup de calme. « Cela étant, j'ai l'honneur de vous saluer. »« Monsieur Maxime !» s'écria-t-elle en se précipitant tout à coup pour m'arrêter. « Non, pardonnez-moi, ayez pitié de moi. »« Hélas !» Comprenez-moi, je suis si malheureuse. Figurez-vous donc ce que peut être la pensée d'une pauvre créature comme moi, à qui on a eu la cruauté de donner un cœur, une âme, une intelligence, et qui ne peut user de tout cela que pour souffrir et pour haïr. Quelle est ma vie? Quel est mon avenir? Ma vie, c'est le sentiment de ma pauvreté, exalté sans cesse par tous les raffinements du luxe qui m'entoure. Mon avenir, ce sera de regretter, de pleurer un jour amèrement cette vie même, cette vie d'esclave, toute odieuse qu'elle est. Vous parlez de ma jeunesse, de mon esprit, de mes talents. Je voudrais n'avoir jamais eu d'autre talent que de casser des pierres sur les routes, je serais plus heureuse. Mes talents, j'aurais passé le meilleur temps de la vie à emparer une autre femme pour qu'elle soit plus belle, plus adorée, plus insolente encore. Et quand le plus pur de mon sang aura passé dans les veines de cette poupée, elle s'en ira au bras d'un heureux époux, prendre sa part des plus belles fêtes de la vie, tandis que moi, seule, vieille, abandonnée, j'irai mourir dans quelque coin avec une pension de femme de chambre. Et qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter cette destinée-là, voyons? Pourquoi moi plutôt que ces femmes? Est-ce que je ne les vaux pas? Et si je suis si mauvaise, c'est que le malheur m'a ulcérée, c'est que l'injustice m'a noirci l'âme. J'étais née comme elle, plus qu'elle peut-être, pour être bonne, aimante et charitable. Eh mon Dieu! Les bienfaits coûtent peu quand on est riche, et la bienveillance est facile aux heureux. Si j'étais à leur place et elle à la mienne, elle me haïrait, comme je les hais. On n'aime pas ses maîtres. Ah, cela est horrible ce que je vous dis, n'est-ce pas? Je le sais bien et c'est ce qui m'achève. Je sens mon abjection, j'en rougis, et je la garde. Hélas, vous allez me mépriser maintenant plus que jamais, monsieur. vous que j'aurais tant aimé si vous l'aviez souffert. Vous qui pouviez me rendre tout ce que j'ai perdu, l'espérance, la paix, la bonté, l'estime de moi-même. Ah, il y a eu un moment où je me suis cru sauvé, où j'ai eu pour la première fois une pensée de bonheur, d'avenir, de fierté. Malheureuse, elle s'était emparée de mes deux mains, elle y plongea sa tête au milieu de ses longues boucles flottantes et pleura follement. Ma chère enfant, lui dis-je, je comprends mieux que personne les ennuis, les amertumes de votre condition, mais permettez-moi de vous dire que vous y ajoutez beaucoup, en nourrissant dans votre cœur les tristes sentiments que vous venez de m'exprimer. Tout ceci est fort laid, je ne vous le cache pas, et vous finirez par mériter toute la rigueur de votre destinée. Mais voyons, votre imagination vous exagère singulièrement cette rigueur. Quant à présent, vous êtes traité ici, quoi que vous en disiez, sur le pied d'une amie, et dans l'avenir, je ne vois rien qui empêche que vous ne sortiez de cette maison, vous aussi, au bras d'un heureux époux. Pour moi, je vous serai toute ma vie reconnaissant de votre affection. Mais je veux vous le dire encore une fois pour en finir à jamais avec ce sujet. J'ai des devoirs auxquels j'appartiens et je ne veux ni ne puis me marier. Elle me regarda tout à coup. « Même avec Marguerite ?» dit-elle. « Oh, je ne vois pas ce que le nom de Mademoiselle Marguerite vient faire ici. » Elle repoussa d'une main ses cheveux qui inondaient son visage, et tendant l'autre vers moi par un geste de menace. « Mais vous l'aimez ? » dit-elle d'une voix sourde, ou plutôt vous aimez sa dot. « Mais vous ne l'aurez pas. Mademoiselle est loin. » « Ah ! » reprit-elle, « vous êtes passablement enfant, si vous avez cru abuser une femme qui avait la folie de vous aimer. Je lis clairement dans vos manœuvres, allez. D'ailleurs, je sais qui vous êtes. » Je n'étais pas loin quand Mademoiselle de Porrette a transmis à Madame Larocque votre politique confidence. Comment vous écoutez aux portes, mademoiselle? Oh, je me soucie peu de vos outrages. D'ailleurs, je me vengerai bientôt. Ah, oh, vous êtes assurément fort habile, monsieur de Champsay, et je vous fais mon compliment. Vous avez joué à merveille le petit rôle de désintéressement et de réserve que votre ami l'aube épin n'a pas manqué de vous recommander en vous envoyant ici. Il sait à qui vous aviez affaire. Il connaissait assez la ridicule manie de cette fille. Vous croyez déjà tenir votre proie, n'est-ce pas? De beaux millions dont la source est plus ou moins pure, dit-on, mais qui seraient fort propres toutefois à recrépir un marquisat et à redorer un écusson. Et vous pouvez dès ce moment y renoncer, car je vous jure que vous ne garderez pas votre masque un jour de plus, et voici la main qui vous l'arrachera. Mademoiselle est loin, il est grandement temps de mettre fin à cette scène, car nous touchons au mélodrame. Vous m'avez fait beau jeu pour vous prévenir sur le terrain de la délation et de la calomnie. Mais vous pouvez y descendre en pleine sécurité, car je vous donne ma parole que je ne vous y suivrai pas. Là-dessus, je suis votre serviteur. Je quittai cet infortuné avec un profond sentiment de dégoût, mais aussi de pitié. Quoique j'eusse toujours soupçonné que l'organisation la mieux douée dût être en proportion même de ses dons, irritée et faussée dans la situation équivoque et mortifiante qu'occupe ici Mademoiselle Éloin, mon imagination n'avait pu plonger jusqu'au fond de l'abîme plein de fiel qui venait de s'ouvrir sous mes yeux. Certes, quand on y songe, on ne peut guère concevoir un genre d'existence qui soumette une âme humaine à de plus venimeuses tentations, qui soit plus capable de développer et d'aiguiser dans le cœur les convoitises de l'envie, de soulever à chaque instant les révoltes de l'orgueil, d'exaspérer toutes les vanités et toutes les jalousies naturelles de la femme. Il n'y a pas à douter que le plus grand nombre des malheureuses filles que leur dénûment et leur talent ont voués à cet emploi, si honorable en soi, n'échappent par la modération de leurs sentiments ou avec l'aide de Dieu, par la fermeté de leurs principes, aux agitations déplorables dont Mademoiselle Éloin n'avait pas pu se garantir. Mais l'épreuve est redoutable. Quant à moi, la pensée m'était venue quelquefois que ma sœur pouvait être destinée par nos malheurs à entrer dans quelque riche famille en qualité d'institutrice. Je fis serment alors, quelque avenir qui nous fût réservé, de partager plutôt avec Hélène, dans la plus pauvre mansarde, le pain le plus amer du travail, que de la laisser jamais s'asseoir au festin empoisonné de cette opulente et haineuse servilité. Cependant, si j'avais la ferme détermination de laisser le champ libre à Mademoiselle Éloin et de n'entrer à aucun prix de ma personne dans les récriminations d'une lutte dégradante, je ne pouvais envisager sans inquiétude les conséquences probables de la guerre déloyale qui venait de m'être déclarée. J'étais évidemment menacé dans tout ce que j'ai le plus sensible, dans mon amour et dans mon honneur. Maîtresse du secret de mon cœur, mêlant avec l'habileté perfide de son sexe la vérité au mensonge, Mademoiselle Éloin pouvait aisément présenter ma conduite sous un jour suspect, tourner contre moi jusqu'aux précautions, jusqu'aux scrupules de ma délicatesse, et prêter à mes plus simples allures la couleur d'une intrigue préméditée. Il m'était impossible de savoir avec précision quel tour elle donnerait à sa malveillance, mais je me fiais à elle pour être assuré qu'elle ne se tromperait pas sur le choix des moyens. Elle connaissait mieux que personne les points faibles des imaginations qu'elle voulait frapper. Elle possédait, sur l'esprit de Mademoiselle Marguerite et sur celui de sa mère, l'empire naturel de la dissimulation sur la franchise, de l'astuce sur la candeur. Elle jouissait auprès d'elle de toute la confiance qui naît d'une longue habitude et d'une intimité quotidienne, et ses maîtres, pour employer son langage, n'avait garde de soupçonner, sous les dehors d'enjouements gracieux et d'obséquieuses prévenances dont elle s'enveloppe avec un art consommé, la frénésie d'orgueil et d'ingratitude qui ronge cette âme misérable. Il était trop vraisemblable qu'une main aussi sûre et aussi savante verserait ses poisons avec plein succès dans des cœurs ainsi préparés. À la vérité, Mademoiselle Éloin pouvait craindre, en cédant à son ressentiment, de replacer la main de Mademoiselle Marguerite dans celle de M. de Mévalan et de hâter un hymen qui serait la ruine de sa propre ambition. Mais je savais que la haine d'une femme ne calcule rien et qu'elle hasarde tout. Je m'attendais donc de la part de celle-ci à la plus prompte comme à la plus aveugle des vengeances. Et j'avais raison. Je passais dans une pénible anxiété les heures que j'avais vouées à de plus douces pensées. Tout ce que la dépendance peut avoir de plus poignant pour une âme fière, le soupçon de plus amer pour une conscience droite, le mépris de plus navrant pour un cœur qui aime, je le sentis. L'adversité dans mes plus mauvais jours ne m'avait jamais servi une coupure remplie. J'essayais cependant de travailler comme de coutume. Vers 5 heures, je me rendis au château. Ces dames étaient rentrées dans l'après-midi. Je trouvai dans le salon Mademoiselle Marguerite, Madame Aubry et Monsieur de Mévalan avec 2 ou 3 autres de passage. Mademoiselle Marguerite parut ne pas s'apercevoir de ma présence. Elle continua de s'entretenir avec M. de Bévalan sur un ton d'animation qui n'était pas ordinaire. Il était question d'un bal improvisé qui devait avoir lieu le soir même dans un château voisin. Elle devait s'y rendre avec sa mère et elle pressait M. de Bévalan de les y accompagner. Celui-ci s'en excusait en alléguant qu'il était sorti de chez lui le matin avant d'avoir reçu l'invitation et que sa toilette n'était pas convenable. Mademoiselle Marguerite, insistant avec une coquetterie affectueuse et empressée, dont son interlocuteur lui-même semblait surpris, lui dit qu'il avait certainement encore le temps de retourner chez lui, de s'habiller et de revenir les prendre. On lui garderait un bon petit dîner. Monsieur de Bévalan objecta que tous ses chevaux de voiture étaient sur la litière et qu'il ne pouvait revenir à cheval en toilette de bal. « Eh bien, reprit Mademoiselle Marguerite, on va vous conduire dans l'américaine. » En même temps, elle dirigea pour la première fois ses yeux sur moi et me couvrant d'un regard où je vis éclater la foudre. « Monsieur Odiot, dit-elle d'une voix de bref commandement, allez dire qu'on attelle. » Cet ordre servile était si peu dans la mesure de ceux qu'on a coutume de m'adresser ici et qu'on peut me croire disposé à subir, que l'attention et la curiosité des plus indifférents furent aussitôt éveillées. Il se fit un silence embarrassé. Monsieur de Bévalan jeta un coup d'œil étonné sur Mademoiselle Marguerite, puis il me regarda, prit un air grave et se leva. Si l'on s'attendait à quelque folle inspiration de colère, il y eut déception. Certes, les insultantes paroles qui venaient de tomber sur moi d'une bouche si belle, si aimée et si barbare avaient fait pénétrer le froid de la mort jusqu'aux sources profondes de ma vie, et je doute qu'une lame d'acier se frayant passage à travers mon cœur m'eût causé une pire sensation. Mais jamais je ne fus si calme. Le timbre dont se sert habituellement Madame Larocque pour appeler ses gens était sur une table à ma portée. J'y appuyai le doigt. Un domestique entra presque aussitôt. « Je crois, lui dis-je, que Mademoiselle Marguerite a des ordres à vous donner. » Sur ces mots qu'elle avait écoutés avec une sorte de stupeur, la jeune fille fit violemment de la tête un signe négatif et congédia le domestique. J'avais grande hâte de sortir de ce salon où j'étouffais, mais je ne pus me retirer devant l'attitude provocante qu'affectait alors M. de Bévalan. « Ma foi, murmura-t-il, voilà quelque chose d'assez particulier. » Je feignis de ne pas l'entendre. Mademoiselle Marguerite lui dit deux mots brusques à voix basse. « Je m'incline, mademoiselle, reprit-il alors d'un ton plus élevé, qu'il me soit permis seulement d'exprimer le regret sincère que j'éprouve de n'avoir pas le droit d'intervenir ici. » Je me levai aussitôt. « Monsieur de Bévalan, dis-je en me plaçant à deux pas de lui, ce regret est tout à fait superflu, car si je n'ai pas cru devoir obéir aux ordres de mademoiselle, je suis entièrement aux vôtres, et je vais les attendre. » « fort bien, monsieur, rien de mieux, » répliqua monsieur de Bévalan en agitant la main avec grâce pour assurer les femmes. Nous nous saluâmes et je sortis. Je dînais solitairement dans ma tour, servi suivant l'usage par le pauvre Alain, que les rumeurs de l'antichambre avaient sans doute instruit de ce qui s'était passé, car il ne cessa d'attacher sur moi des regards lamentables, poussant par intervalles de profonds soupirs et observant contre sa coutume un silence morne. Seulement, sur ma demande, il m'apprit que ces dames avaient décidé qu'elles n'iraient pas au bal ce soir-là. Mon bref repas terminé, je mis un peu d'ordre dans mes papiers et j'écrivis deux mots à M. Laubépin. À toute prévision, je lui recommandais Hélène. L'idée de l'abandon où je la laisserais en cas de malheur me navrait le cœur, sans ébranler le moins du monde mes immuables principes. Je puis m'abuser, mais j'ai toujours pensé que l'honneur, dans notre vie moderne, domine toute la hiérarchie des devoirs. Il supplée aujourd'hui à tant de vertus à demi effacées dans les consciences, à tant de croyances endormies. Il joue dans l'état de notre société un rôle tellement tutélaire qu'il n'entrera jamais dans mon esprit d'en affaiblir les droits ou d'en subordonner les obligations. L'honneur, dans son caractère défini, est quelque chose de supérieur à la loi et à la morale. On ne le raisonne pas, on le sent. C'est une religion. Si nous n'avons plus la folie de la croix, gardons la folie de l'honneur. Au surplus, il n'y a pas de sentiment profondément ancré dans l'âme humaine qui ne soit, si l'on y pense, sanctionné par la raison. Mieux vaut à tout risque une fille ou une femme seule au monde que protégée par un frère ou par un mari déshonoré. J'attendais d'un instant à l'autre un message de M. de Bévalland. Je m'apprêtais à me rendre chez le percepteur du bourg, qui est un jeune officier blessé en Crimée, et à réclamer son assistance quand on heurta à ma porte. Ce fut M. de Bévalland lui-même qui entra. Son visage exprimait avec une faible nuance d'embarras une sorte de bonhomie ouverte et joyeuse. « Monsieur, me dit-il pendant que je le considérais avec une assez vive surprise, voilà une démarche un peu irrégulière, mais ma foi, j'ai des états de service qui mettent, Dieu merci, mon courage à l'abri du soupçon. D'autre part, j'ai lieu d'éprouver ce soir un contentement qui ne laisse aucune place chez moi à l'hostilité ou à la rancune. Enfin, j'obéis à des ordres qui doivent n'être plus sacrés que jamais. Bref, je viens vous tendre la main. » Je saluai avec gravité et je pris sa main. « Maintenant, ajouta-t-il en s'asseyant, me voilà fort à l'aise pour m'acquitter de mon ambassade. Mademoiselle Marguerite vous a tantôt, monsieur, dans un moment de distraction, donné quelques instructions qui assurément n'étaient pas de votre ressort. Votre susceptibilité s'en est émue très justement, nous le reconnaissons, et ces dames m'ont chargé de vous faire accepter leurs regrets. Elles seraient désespérées que ce malentendu d'un instant les privât de vos bons offices, dont elles apprécient toute la valeur et rompit des relations auxquelles elles attachent un prix infini. Pour moi, monsieur, j'ai acquis ce soir ma grande joie, le droit de joindre mes instances à celles de ces dames. Les vœux que je formais depuis longtemps viennent d'être agréés, et je vous serai personnellement obligé de ne pas mêler à tous les souvenirs heureux de cette soirée celui d'une séparation qui serait à la fois préjudiciable et douloureuse à la famille dans laquelle j'ai l'honneur d'entrer. « Monsieur, lui dis-je, je ne puis qu'être très sensible au témoignage que vous voulez bien me rendre au nom de ces dames et au vôtre. Vous me pardonnerez de n'y pas répondre immédiatement par une détermination formelle qui demanderait plus de liberté d'esprit que je n'en puis avoir encore. Vous me permettrez au moins, dit M. de Bévalland, d'emporter une bonne espérance. » « Voyons, monsieur, puisque l'occasion s'en présente, rompons donc à jamais l'ombre de glace qui a pu exister entre nous deux jusqu'ici. Pour mon compte, j'y suis très disposé. D'abord, Madame Larocque, sans se dénantir d'un secret qui ne lui appartient pas, ne m'a point laissé ignorer que les circonstances les plus honorables pour vous se cachent sous l'espèce de mystère dont vous vous entourez. Ensuite, je vous dois une reconnaissance particulière. Je sais que vous avez été consulté récemment au sujet de mes prétentions à la main de Mademoiselle Laroque et que j'ai eu à me louer de votre appréciation. Oh mon Dieu, monsieur, je ne pense pas avoir mérité. Oh, je sais, reprit-il en riant, que vous n'avez pas abondé follement dans mon sens. Mais enfin, vous ne m'avez pas nui. J'avoue même que vous avez fait preuve d'une sagacité réelle. Vous avez dit que si Mademoiselle Marguerite ne devait pas être absolument heureuse avec moi, elle ne serait pas non plus malheureuse. Eh bien, le prophète Daniel n'aurait pas mieux dit. La vérité est que la chère enfant ne serait absolument heureuse avec personne, puisqu'elle ne trouverait pas dans le monde entier un mari qui lui parlât en vers du matin au soir. Il n'y en a pas. Je ne suis pas plus qu'un autre de ce calibre-là, j'en conviens, mais comme vous m'avez fait encore l'honneur de le dire, je suis un galant homme. Véritablement, quand nous nous connaîtrons mieux, vous n'en douterez pas. Je ne suis pas un méchant diable, je suis un bon garçon. Mon Dieu, oui, j'ai des défauts, j'en ai eu surtout. J'ai aimé les jolies femmes, hein, ça je ne peux le nier. Mais quoi ? C'est la preuve qu'on a un bon cœur. D'ailleurs, me voilà au port, et même j'en suis ravi parce que, entre nous, je commençais à me roussir un peu. Bref, je ne veux plus penser qu'à ma femme et à mes enfants. D'où je conclus avec vous que Marguerite sera parfaitement heureuse, c'est-à-dire autant qu'elle peut l'être en ce monde avec une tête comme la sienne, car enfin je serai charmant pour elle, je ne lui refuserai rien. J'irai même au-devant de tous ses désirs. Mais si elle me demande la lune et les étoiles, je ne peux pas aller les décrocher pour lui être agréable. Ah ça, c'est impossible. Allez là-dessus, mon cher ami, votre main encore une fois. Je la lui donnai. Il se leva. Bon, là, j'espère que vous nous resterez maintenant. Voyons, allez, éclaircissez-moi un peu ce front-là. Nous vous ferons la vie aussi douce que possible, mais il faut vous y prêter un peu, que diable. Vous vous complaisez dans votre tristesse. Vous vivez, enfin passez-moi le mot, comme un vrai hibou. Vous êtes une sorte d'espagnol, comme on n'en en voit pas. Secouez-moi donc tout ça, vous êtes jeune, beau garçon, vous avez de l'esprit et des talents, profitez un peu de toutes ces choses. Voyons, pourquoi ne feriez-vous pas un doigt de cour à la petite Éloin ? Cela vous amuserait. Elle est très gentille, elle irait très bien. Oh, mais diantre, j'oublie un peu ma promotion aux grandes dignités, moi. Alors, adieu, Maxime. Et à demain, n'est-ce pas ? À demain, certainement. Et ce galant homme, qui est lui une sorte d'espagnol, comme on en voit beaucoup, m'abandonna à mes réflexions. 1er octobre. Un singulier événement. Quoique les conséquences n'en soient pas jusqu'ici les plus heureuses, il m'a fait du bien. Après le rude coup qui m'avait frappé, j'étais demeuré comme engourdi de douleur. Ceci m'a rendu au moins le sentiment de la vie et pour la première fois depuis 3 longues semaines, j'ai le courage d'ouvrir ces feuilles et de prendre la plume. Toute satisfaction m'étant donnée, je pensais que je n'avais plus aucune raison de quitter brusquement, du moins, une position et des avantages qui me sont après tout nécessaires et dont j'aurais grand-peine à trouver l'équivalent du jour au lendemain. La perspective des souffrances tout à fait personnelles qui me restaient à affronter et que je m'étais d'ailleurs attiré par ma faiblesse, ne pouvait m'autoriser à fuir des devoirs où mes intérêts ne sont pas seuls engagés. En outre, je n'entendais pas que Mademoiselle Marguerite pût interpréter ma subite retraite par le dépit d'une belle partie perdue, et je me faisais un point d'honneur de lui montrer jusqu'au pied de l'autel un front impassible. Quant au cœur, elle ne le verrait pas. Bref, je me contentais d'écrire à M. Lobépin que certains côtés de ma situation pouvait d'un instant à l'autre me devenir intolérable, et que j'ambitionnais avidement quelque emploi moins rétribué et plus indépendant. Dès le lendemain, je me présentai au château où M. de Bévalan m'accueillit avec cordialité. Je saluai ces dames avec tout le naturel dont je puis disposer. Il n'y eut bien entendu aucune explication. Madame Larocque me parut émue et pensive. Mademoiselle Marguerite encore un peu vibrante, mais polie. Quant à Mademoiselle Éloin, elle était fort pâle et tenait les yeux baissés sur sa broderie. La pauvre fille n'avait pas à se féliciter extrêmement du résultat final de sa diplomatie. Elle essayait bien de temps en temps de lancer au triomphant M. de Bévalan un regard chargé de dédain et de menaces, mais dans cette atmosphère orageuse qui eût passablement inquiété un novice, M. de Bévalan respirait, circulait et voltigeait avec la plus parfaite aisance. Cet aplomb souverain irritait manifestement Mademoiselle Éloin, mais en même temps il la domptait. Toutefois, si elle n'eût risqué que de se perdre avec son complice, je ne doute pas qu'elle ne lui eût rendu immédiatement, et avec plus de raison, un service analogue à celui dont elle m'avait gratifié la veille. Mais il était probable qu'en cédant à sa jalouse colère et en confessant son ingrate duplicité, elle se perdait seule, et elle avait toute l'intelligence nécessaire pour le comprendre. M. de Bévalan, en effet, n'était pas homme à s'être avancé vis-à-vis d'elle sans se réserver une garde sévère dont il userait avec un sang-froid impitoyable. Mademoiselle Éloin pouvait se dire à la vérité qu'on avait ajouté foi la veille sur sa seule parole à des dénonciations autrement mensongères, mais elle n'était pas sans savoir qu'un mensonge qui flatte ou qui blesse le cœur trouve plus facilement créance qu'une vérité indifférente. Elle se résignait donc, non sans en éprouver amèrement, je suppose, que l'arme de la trahison tourne quelquefois dans la main qui s'en sert. Pendant ce jour et ceux qui le suivirent, je fus soumis à un genre de supplice que j'avais prévu, mais dont je n'avais pas pu calculer tous les poignants détails. Le mariage a été fixé à un mois de là. On en dut faire sans retard et à la hâte tous les préparatifs. Les bouquets de Madame Prévost arrivèrent régulièrement chaque matin. Les dentelles, les étoffes, les bijoux affluèrent ensuite et furent étalés chaque soir dans le salon sous les yeux des avis affairés et jalouses. Il fallut donner sur tout cela mes avis et mes conseils. Mademoiselle Marguerite les sollicitait avec une sorte d'affection cruelle. J'obéissais de bonne grâce, puis je rentrais dans ma tour. Je prenais dans un tiroir secret le petit mouchoir déchiré que j'avais sauvé au péril de ma vie, et j'en essuyais mes yeux. Lâcheté encore, mais qu'y faire? Je l'aime. La perfidie, l'inimitié, des malentendus irréparables, sa fierté et la mienne, nous séparent à jamais, soit, mais rien n'empêchera ce cœur de vivre et de mourir plein d'elle. Quant à M. de Bévalan, je ne me sentais pas de haine contre lui. Il n'en mérite pas. C'est une âme vulgaire, mais inoffensive. Je pouvais, Dieu merci, sans hypocrisie, recevoir les démonstrations de sa banale bienveillance et mettre avec tranquillité ma main dans la sienne. Mais si sa personnalité fruste échappait à ma haine, je n'en ressentais pas moins, avec une angoisse profonde, déchirante, combien cet homme était indigne de la créature choisie qu'il posséderait bientôt et qu'il ne connaîtrait jamais. Dire le flot de pensées amères, de sensations sans nom, que soulevait en moi, et qui soulève encore, l'image prochaine de cette odieuse mésalliance, je ne le pourrais ni ne l'oserais. L'amour véritable a quelque chose de sacré, qui imprime un caractère plus qu'humain aux douleurs comme aux joies qu'il nous donne. Il y a dans la femme qu'on aime je ne sais quelle divinité dont il me semble qu'on est seul le secret, qui n'appartient qu'à vous et dont une main étrangère ne peut toucher le voile sans vous faire éprouver une horreur qui ne ressemble à aucune autre, un frisson de sacrilège. Ce n'est pas seulement un bien précieux qu'on vous ravit, c'est un autel qu'on profane en vous, un mystère qu'on viole, un dieu qu'on outrage. Voilà la jalousie, enfin, du moins c'est la mienne. Très sincèrement, il me semblait que moi seul au monde j'avais des yeux, une intelligence, un cœur capable de voir, de comprendre et d'adorer dans toutes ses perfections la beauté de cet ange, qu'avec tout autre elle serait comme égarée et perdue, qu'elle m'était destinée à moi seul, corps et âme de toute éternité. J'avais cet orgueil immense, assez expié par une immense douleur. Cependant, un démon railleur murmurait à mon oreille que, suivant toutes les prévisions de l'humaine sagesse, Marguerite trouverait plus de paix et de bonheur réel dans l'amitié tempérée du mari raisonnable qu'elle n'en eût rencontré dans la belle passion de l'époux romanesque. Est-ce donc vrai? Est-ce donc possible? Non, moi je ne le crois pas. Elle aura la paix de soi, mais la paix, après tout, n'est pas le dernier mot de la vie, le symbole suprême du bonheur. S'il suffisait de ne pas souffrir et de se pétrifier le cœur pour être heureux, trop de gens le seraient qui ne le méritent pas. À force de raison et de prose, on finit par diffamer Dieu et dégrader son œuvre. Dieu donne la paix aux morts, la passion aux vivants. Oui, il y a dans la vie, à côté de la vulgarité des intérêts courants et quotidiens, à laquelle je n'ai pas l'enfantillage de prétendre échapper, il y a une poésie permise, que dis-je, commandée. C'est la part de l'âme douée d'immortalité. Il faut que cette âme se sente et se révèle quelquefois, fût-ce par des transports au-delà du réel, par des aspirations au-delà du possible, fût-ce par des orages ou par des larmes. Oui, il y a une souffrance qui vaut mieux que le bonheur, ou plutôt qui est le bonheur même, celle d'une créature vivante qui connaît tous les troubles du cœur et toutes les chimères de la pensée, et qui partage ses nobles tourments avec un cœur égal et une pensée fraternelle. Voilà le roman que chacun a le droit et, pour dire tout, le devoir de mettre dans sa vie s'il a le titre d'homme et s'il le veut justifier. Au surplus, cette paix même tant vantée, la pauvre enfant ne l'aura pas. Que le mariage de deux cœurs inertes et de deux imaginations glacées engendre le repos du néant, je le veux bien. Mais l'union de la vie et de la mort ne peut se soutenir sans une contrainte horrible et de perpétuel déchirement. Au milieu de ces misères intimes dont chaque jour redoublait l'intensité, je ne trouvais un peu de secours qu'auprès de ma pauvre et vieille amie, Mademoiselle de Porrohet. Elle ignorait ou feignait d'ignorer l'état de mon cœur. Mais dans des allusions voilées, peut-être involontaires, elle posait légèrement sur mes plaies saignantes la main délicate et ingénieuse d'une femme. Il y a d'ailleurs dans cette âme, vivante emblème du sacrifice et de la résignation, et qui déjà semble flotter au-dessus de la terre, un détachement, un calme, une douce fermeté qui se répandait sur moi. J'en arrivais à comprendre son innocente folie et même à m'y associer avec une sorte de naïveté. Penché sur mon album, je me cloîtrais avec elle pendant de longues heures dans sa cathédrale et j'y respirais un moment les vagues parfums d'une idéale sérénité. J'allais encore chercher, presque chaque jour, dans le logis de la vieille demoiselle, un autre genre de distraction. Il n'y a point de travail auquel l'habitude ne prête quelque charme. Pour ne pas laisser soupçonner à Mademoiselle de Porrette la perte définitive de son procès, je poursuivais régulièrement l'exploration de ses archives de famille. Je découvrais par intervalle, dans ce fouillis, des traditions, des légendes, des traits de mœurs qui éveillaient ma curiosité et qui transportaient un moment mon imagination dans les temps passés, loin de l'accablante réalité. Mademoiselle de Perrette, dont ma persévérance entretenait les illusions, m'en témoignait une gratitude que je méritais peu, car j'avais fini par prendre à cette étude, désormais sans utilité positive, un intérêt qui me payait de mes peines et qui faisait à mes chagrins une diversion salutaire. Cependant, à mesure que le terme fatal approchait, Mademoiselle Marguerite perdait la vivacité fébrile dont elle avait paru animée depuis le jour où le mariage avait été définitivement arrêté. Elle retombait, du moins par instant, dans son attitude autrefois familière d'indolence passive et de sombre rêverie. Je surpris même, une ou deux fois, ses regards attachés sur moi avec une sorte de perplexité extraordinaire. Madame Larocque, de son côté, me regardait souvent avec un air d'inquiétude et d'indécision, comme si elle eût désiré et redouté en même temps d'aborder avec moi quelque pénible sujet d'entretien. Avant-hier, le hasard fit que je me trouvais seul avec elle dans le salon. Mademoiselle Éloi était sortie brusquement pour donner un ordre. La conversation indifférente dans laquelle nous étions engagés cessa aussitôt comme par un accord secret. Après un court silence, « Monsieur, me dit Madame Larocque d'un accent pénétré, vous placez bien mal vos confidences. » « Mes confidences, madame, je ne puis vous comprendre. À part Mademoiselle de Porrette, personne ici n'a reçu de moi l'ombre d'une confidence. »« Hélas, reprit-elle, je veux le croire, je le crois, mais ce n'est pas assez. » Au même instant, Mademoiselle Edouard rentra et tout fut dit. Le lendemain, c'était hier, j'étais parti à cheval dès le matin pour surveiller quelques coupes de bois dans les environs. Vers 4 heures du soir, je revenais dans la direction du château, quand, à un brusque détour du chemin, je me trouvais subitement face à face avec Mademoiselle Marguerite. Elle était seule. Je me disposais à passer en assalement, mais elle arrêta son cheval. « Un beau jour d'automne, monsieur, me dit-elle. « Oh oui, mademoiselle, vous vous promenez ?»« Oui, comme vous voyez, juste de mes derniers moments d'indépendance, et même j'en abuse, car je me sens un peu embarrassé de ma solitude. » Mais Alain est nécessaire là-bas. Mon pauvre Mervyn est boiteux. Vous ne voulez pas le remplacer par hasard? Avec plaisir. Où allez-vous? Mais oh, j'avais presque l'idée de pousser jusqu'à la tour d'Elven. Elle me désignait du bout de sa cravache un sommet brumeux qui s'élevait à droite de la route. « Je crois, ajouta-t-elle, que vous n'avez jamais fait ce pèlerinage. »« C'est vrai, il m'a souvent tenté, mais je l'ai ajourné jusqu'ici, oh, je ne sais pourquoi. »« Eh bien, cela se trouve parfaitement, mais il est déjà tard, il faut louater un peu, s'il vous plaît. » Je tournai bride et nous partîmes au galop. Pendant que nous courions, je cherchais à me rendre compte de cette fantaisie inattendue qui ne laissait pas de paraître un peu prémédité. Je supposais que le temps et la réflexion avaient pu atténuer dans l'esprit de Mademoiselle Marguerite l'impression première des calomnies dont on l'avait troublée. Apparemment, elle avait fini par concevoir quelques doutes sur la véracité de Mademoiselle Éloin, et elle s'était entendue avec le hasard pour m'offrir, sous une forme déguisée, une sorte de réparation qui pouvait m'être due. Au milieu des préoccupations qui m'assiégeaient alors, j'attachais une faible importance au but particulier que nous nous proposions dans cette étrange promenade. Cependant, j'avais souvent entendu citer autour de moi cette tour d'Elven comme une des ruines les plus intéressantes du pays, et jamais je n'avais parcouru l'une des deux routes qui de Rennes ou de Josselin se dirige vers la mer, sans contempler d'un œil avide cette masse indécise qu'on voit pointer au milieu des landes lointaines comme une énorme pierre levée. Mais le temps et l'occasion m'avaient manqué. Le village d'Elven, que nous traversâmes en ralentissant un peu notre allure, donne une représentation vraiment saisissante de ce que pouvait être un bourg du Moyen-Âge. La forme des maisons basses et sombres n'a pas changé depuis 5 ou 6 siècles. On croit rêver quand on voit à travers les larges baies cintrées sans châssis qui tiennent lieu de fenêtres, ces groupes de femmes à l'œil sauvage, au costume sculptural, qui filent leurs quenouilles dans l'ombre et s'entretiennent à voix basse dans une langue inconnue. Il semble que tous ces spectres grisâtres viennent de quitter leur dalle tumulaire pour exécuter entre eux quelques scènes d'un autre âge dont vous êtes le seul témoin vivant. Cela cause une sorte d'oppression. Le peu de vie qui se communique autour de vous dans l'unique rue du bourg porte le même caractère d'archaïsme et d'étrangeté fidèlement retenu d'un monde évanoui. À peu de distance d'Elven, nous prîmes un chemin de traverse qui nous conduisit sur le sommet d'une colline aride. De là, nous aperçûmes distinctement, quoiqu'à une assez grande distance encore, le colosse féodal dominant en face de nous une hauteur boisée. La lande où nous nous trouvions s'abaissait par une pente assez raide vers des prairies marécageuses encadrées dans des pétaillis. Nous en descendîmes le revers et nous fûmes bientôt engagés dans les bois. Nous suivions alors une étroite chaussée dont le pavé disjoint et raboté a dû résonner sous le pied des chevaux bardés de fer. J'avais cessé depuis longtemps de voir la tour d'Elven, dont je ne pouvais même plus conjecturer l'emplacement, quand elle se dégagea soudain de la feuillée et se dressa à 2 pas de nous avec la soudaineté d'une apparition. Cette tour n'est point ruinée, elle conserve aujourd'hui toute sa hauteur primitive, qui dépasse 100 pieds et les assises régulières de granit qui en composent le magnifique appareil octogonal, lui donne l'aspect d'un bloc formidable taillé d'hier par le plus pur ciseau. Rien de plus imposant, de plus fier, de plus sombre que ce vieux donjon impassible au milieu des temps et isolé dans l'épaisseur de ses bois. Des arbres ont poussé de toute leur taille dans les douves profondes qui l'environnent, et leurs fêtes touchent à peine l'ouverture des fenêtres les plus basses. Cette végétation gigantesque dans laquelle se perd confusément la base de l'édifice achève de lui prêter une couleur de fantastique mystère. Dans cette solitude, au milieu de ces forêts, en face de cette masse d'architecture bizarre qui surgit tout à coup, il est impossible de ne pas songer à ces tours enchantées où de belles princesses dorment un sommeil séculaire. Jusqu'à ce jour, me dit Mademoiselle Marguerite, à qui j'ai essayé de communiquer cette impression, voici tout ce que j'en ai vu. Mais si vous tenez à réveiller la princesse, nous pouvons entrer. Autant que je le puisse savoir, il y a toujours dans ces environs un berger ou une bergère qui est muni ou munie de la clé. Attachons nos chevaux là et mettons-nous à la recherche, vous du berger et moi de la bergère. Les chevaux furent parqués dans un petit enclos voisin de la ruine, et nous nous séparâmes un moment, Mademoiselle Marguerite et moi, pour faire une sorte de battue dans les environs. Nous eûmes le regret de ne rencontrer ni berger ni bergère. Notre désir de visiter l'intérieur de la tour s'accrut alors tout naturellement de tout l'attrait du fruit défendu, et nous franchîmes à l'aventure un pont jeté sur les fossés. À notre vive satisfaction, la porte massive du donjon n'était point fermée. Nous n'eûmes qu'à la pousser pour pénétrer dans un réduit étroit, obscur et encombré de débris, qui pouvait autrefois tenir lieu de corps de garde. De là, nous passâmes dans une vaste salle à peu près circulaire, dont la cheminée montre encore sur son écusson les besants de la croisade. Une large fenêtre ouverte en face de nous, et que traverse la croix symbolique nettement découpée dans la pierre éclairée pleinement la région inférieure de cette enceinte, tandis que l'œil se perdait dans l'ombre incertaine des hautes voûtes effondrées. Au bruit de nos pas, une troupe d'oiseaux invisibles s'envola de cette obscurité et secoua sur nos têtes la poussière des siècles. En montant sur les bancs de granit qui sont disposés de chaque côté du mur en forme de gradin, dans l'embrasure de la fenêtre, nous pûmes jeter un coup d'œil au dehors sur la profondeur des fossés et sur les parties ruinées de la forteresse. Mais nous avions remarqué dès notre entrée les premiers degrés d'un escalier pratiqué dans l'épaisseur de la muraille, et nous éprouvions une hâte enfantine de pousser plus avant nos découvertes. Nous entreprîmes l'ascension. J'ouvris la marche, et Mademoiselle Marguerite me suivit bravement, se tirant de ses longues jupes comme elle pouvait. Du haut de la plateforme, la vue est immense et délicieuse. Les douces teintes du crépuscule estompaient en ce moment même l'océan de feuillage à demi doré par l'automne, les sombres marais, les pelouses verdoyantes, les horizons aux pentes entrecroisées, qui se mêlaient et se succédaient sous nos yeux jusqu'à l'extrême lointain. En face de ce paysage gracieux, triste et infini, nous sentions la paix de la solitude, le silence du soir, la mélancolie des temps passés, descendre à la fois comme un charme puissant dans nos esprits et dans nos cœurs. Cette heure de contemplation commune, d'émotion partagée, de profonde et pure volupté était sans doute la dernière qu'il dut m'être donné de vivre auprès d'elle et avec elle, et je m'y attachais avec une violence de sensibilité presque douloureuse. Pour Marguerite, je ne sais ce qui se passait en elle. Elle s'était assise sur le rebord du parapet, elle regardait au loin et se taisait. Je n'entendais que le souffle un peu précipité de son haleine. Je ne pourrais dire combien d'instants s'écoulèrent ainsi. Quand les vapeurs s'épaissirent au-dessus des prairies basses et que les derniers horizons commencèrent à s'effacer dans l'ombre croissante, Marguerite se leva. Allons, dit-elle à demi-voix et comme si un rideau fût tombé sur quelque spectacle regretté. C'est fini. Puis elle commença à descendre l'escalier et je la suivis. Quand nous voulûmes sortir du donjon, grande fut notre surprise d'en trouver la porte fermée. Apparemment, le jeune gardien, ignorant notre présence, avait tourné la clé pendant que nous étions sur la plateforme. Notre première impression fut celle de la gaieté. La tour était définitivement une tour enchantée. Je fis quelques efforts vigoureux pour rompre l'enchantement, mais le pêne énorme de la vieille serrure était solidement arrêté dans le granit et je dus renoncer à le dégager. Je tournai alors mes attaques contre la porte elle-même, mais les gonds massifs et les panneaux de chêne plaqués de fer m'opposèrent la résistance la plus invincible. Deux ou trois moellons que je pris dans les décombres et que je lançai contre l'obstacle ne parvinrent qu'à ébranler la voûte et en détacher quelques fragments qui vinrent tomber à nos pieds. Mademoiselle Marguerite ne voulut pas me laisser poursuivre une entreprise évidemment sans espoir et qui n'était pas sans danger. Je courus alors à la fenêtre et je poussai quelques cris d'appel auxquels personne ne répondit. Durant une dizaine de minutes, je les renouvelai d'instant en instant avec le même succès. En même temps, nous profitions à la hâte des dernières lueurs du jour pour explorer minutieusement tout l'intérieur du donjon. Mais, à part cette porte qui était comme murée pour nous, et la grande fenêtre qu'un abîme de près de 30 pieds séparait du fond des fossés, nous ne pûmes découvrir aucune issue. Cependant, la nuit achevait de tomber sur la campagne, et les ténèbres avaient envahi la vieille tour. Quelques reflets de lune pénétraient seulement dans le retrait de la fenêtre et blanchissaient obliquement la pierre des gradins. Mademoiselle Marguerite, qui avait perdu peu à peu toute apparence d'enjouement, cessa même de répondre aux conjectures plus ou moins vraisemblables par lesquelles j'essayais de tromper encore ses inquiétudes. Pendant qu'elle se tenait dans l'ombre, silencieuse et immobile, j'étais assis en pleine clarté sur le degré le plus rapproché de la fenêtre. De là, je tentais encore, par intervalle, un appel de détresse. Mais, pour être vrai, à mesure que la réussite de mes efforts devenait plus incertaine, je me sentais gagné par un sentiment d'allégresse irrésistible. Je voyais en effet se réaliser pour moi tout à coup le rêve le plus éternel et le plus impossible des amants. J'étais enfermé au fond d'un désert et dans la plus étroite solitude avec la femme que j'aimais. Pour de longues heures, il n'y avait plus qu'elle et moi au monde, que sa vie et la mienne. Je songeais à tous les témoignages de douce protection, de tendre respect que j'allais avoir le droit, le devoir de lui prodiguer. Je me représentais ses terreurs calmées, sa confiance, son sommeil. Je me disais avec un ravissement profond que cette nuit fortunée, si elle ne pouvait me donner l'amour de cette chère créature, allait du moins m'assurer pour jamais sa plus inébranlable estime. Comme je m'abandonnais avec tout l'égoïsme de la passion à ma secrète extase, dont quelques reflets peut-être se peignaient sur mon visage, je fus réveillé tout à coup par ces paroles qui m'étaient adressées d'une voix sourde et sur un ton de tranquillité affectée. « Monsieur le marquis de Champsay, y a-t-il eu beaucoup de lâches dans votre famille avant vous ?» Je me soulevai, et je retombai aussitôt sur le banc de pierre, attachant un regard stupide sur les ténèbres où j'entrevoyais vaguement le fantôme de la jeune fille. Une idée me vint, une idée terrible. C'était que la peur et le chagrin lui troublaient le cerveau, qu'elle devenait folle. « Marguerite !» m'écriai-je, sans savoir même que je parlais. Ce mot acheva sans doute de l'irriter. « Mon Dieu, que c'est odieux !» reprit-elle. que c'est lâche, oui, je le répète, lâche. La vérité commençait à luire dans mon esprit. Je descendis un des degrés. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc ? Dis-je froidement. Mais c'est vous, répliqua-t-elle avec une brusque véhémence. C'est vous qui avez payé cet homme ou cet enfant, je ne sais, pour nous emprisonner dans cette misérable tour. Demain je serai perdu, déshonoré dans l'opinion et je ne pourrai plus appartenir qu'à vous. Voilà votre calcul, n'est-ce pas ? Mais celui-là, je vous l'atteste, ne vous réussira pas mieux que les autres. Vous me connaissez encore bien imparfaitement. Si vous croyez que je ne préférerais pas le déshonneur, le cloître, la morve, tout, à l'abjection de lier ma main, ma vie à la vôtre. Et quand cette ruse infâme vous eut réussi, quand j'aurais eu la faiblesse, que certes je n'aurais pas, de vous donner ma personne, et, ce qui vous importe davantage, ma fortune, en échange de ce beau trait de politique, quelle espèce d'homme êtes-vous donc ? Voyons, de quelle fange êtes-vous fait pour vouloir d'une richesse et d'une femme acquise à ce prix-là ? Alors, remerciez-moi encore, monsieur, de ne pas céder à vos vœux. Vos vœux sont imprudents, croyez-moi. Car si jamais la honte et la risée publique me jetaient dans vos bras, j'aurais tant de mépris pour vous que j'en écraserais votre cœur. Oui, fût-il aussi dur, aussi glacé que ces pierres, j'en tirerais du sang, j'en ferais sortir des larmes. Mademoiselle, dis-je avec tout le calme que je pus trouver, je vous supplie de revenir à vous, à la raison. Je vous atteste sur l'honneur que vous me faites outrage. Veuillez y réfléchir. Vos soupçons ne reposent sur aucune vraisemblance. Je n'ai pu préparer en aucune façon la perfidie dont vous m'accusez. Et quand je l'aurais pu enfin, comment vous aurais-je jamais donné le droit d'en croire coupable ? Oh, tout ce que je sais de vous me donne ce droit, s'écria-t-elle en coupant l'air de sa cravache. Bon, il faut bien que je vous dise une fois ce que j'ai dans l'âme depuis trop longtemps. Qu'êtes-vous venu faire dans notre maison, sous un nom, sous un caractère emprunté ? Nous étions heureuses, nous étions tranquilles, ma mère et moi. Vous nous avez apporté un trouble, un désordre, des chagrins que nous ne connaissions pas. Pour atteindre votre but, pour réparer les brèches de votre fortune, vous avez usurpé notre confiance. Vous avez fait litière de notre repos. Vous avez joué avec nos sentiments les plus purs, les plus vrais, les plus sacrés. Vous avez froissé, brisé nos cœurs, sans pitié. Voilà ce que vous avez fait, ou voulu faire, peu importe. Eh bien, je suis profondément las et ulcéré de tout cela, je vous le dis. Et quand, à cette heure, vous venez m'offrir en gage votre honneur de gentilhomme, qui vous a permis déjà tant de choses indignes, oh, certes, j'ai le droit de n'y pas croire, et je n'y crois pas. J'étais hors de moi. Je saisis ses deux mains dans un transport de violence qui la domina. Marguerite, ma pauvre enfant, écoutez bien. Je vous aime, cela est vrai, et jamais amour plus ardent, plus désintéressé, plus saint n'entra dans le cœur d'un homme. Mais vous aussi, vous m'aimez. Vous m'aimez, malheureuse, et vous me tuez. Vous parlez de cœur froissé et brisé, mais que faites-vous donc du mien ? Mais il vous appartient, je vous l'abandonne. Quant à mon honneur, je le garde, il est entier. Et avant peu, je vous forcerai bien de le reconnaître. Et sur cet honneur, je vous fais serment que si je meurs, vous me pleurerez, et que si je vis jamais, tout adoré que vous êtes, fussiez-vous à deux genoux devant moi, jamais je ne vous épouserai, que vous ne soyez aussi pauvre que moi ou moi aussi riche que vous. Et maintenant, et priez, et priez, demandez à Dieu des miracles, il en est temps. Je la repoussai alors brusquement loin de l'embrasure, et je m'élançai sur les gradins supérieurs. J'avais conçu un projet désespéré que j'exécutai aussitôt avec la précipitation d'une démence véritable. Ainsi que je l'ai dit, la cime des hêtres et des chênes qui poussent dans les fossés de la tour s'élevait au niveau de la fenêtre. À l'aide de ma cravache ployée, j'attirai à moi l'extrémité des branches les plus proches, je les embrassai au hasard et je me laissai aller dans le vide. J'entendis au-dessus de ma tête mon nom, « Maxime !» proféré soudain avec un cri déchirant. Les branches auxquelles je m'étais attaché se courbèrent de toute leur longueur vers l'abîme. Puis il y eut un craquement sinistre, elles éclatèrent sous mon poids, et je tombai rudement sur le sol. Je pense que la nature fangeuse du terrain amortit la violence du choc, car je me sentis vivant, quoique blessé. Un de mes bras avait porté sur le talus maçonné de la douve. J'y éprouvais une douleur tellement aiguë que le cœur me défaillit. J'eus un court étourdissement. J'en fus réveillé par la voix éperdue de Marguerite. « Maxime, Maxime » criait-elle, « par grâce, par pitié !» Au nom du bon Dieu, parlez-moi, pardonnez-moi. Je me levai et je la vis dans la baie de la fenêtre, au milieu d'une auréole de pâle lumière, la tête nue, les cheveux tombants, la main crispée sur la barre de la croix, les yeux ardemment fixés sur le sombre précipice. Ne craignez rien, lui dis-je, je n'ai aucun mal. Prenez seulement patience, une heure ou deux. Donnez-moi le temps d'aller jusqu'au château, c'est le plus sûr. Soyez certaine que je vous garderai le secret et que je sauverai votre honneur comme je viens de sauver le mien. » Je sortis péniblement des fossés, j'allais prendre mon cheval. Je me servis de mon mouchoir pour suspendre et fixer mon bras gauche qui ne m'était plus d'aucun usage et qui me faisait beaucoup souffrir. Grâce à la clarté de la nuit, je retrouvai aisément ma route. Une heure plus tard, j'arrivais au château. On me dit que le docteur Desmarets était dans le salon. Je me hâtai de m'y rendre et j'y trouvai avec lui une douzaine de personnes dont la contenance accusait un état de préoccupation et d'alarme. « Docteur, lui dis-je gaiement en entrant, mon cheval vient d'avoir peur de son ombre. » Il m'a jeté bas sur la route et je crains d'avoir le bras gauche foulé. Voulez-vous voir ? Comment foulé ? Dit Monsieur de Marais, après qu'il eut détaché le mouchoir. Mais vous avez le bras parfaitement cassé, mon pauvre garçon. Madame Larocque poussa un faible cri et s'approcha de moi. Mais c'est donc une soirée de malheur, dit-elle. Je feignis la surprise. « Qu'y a-t-il encore ? » m'écriai-je. « Mon Dieu, j'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque accident à ma fille. Elle est sortie à cheval vers 3 heures, il en est 8, et elle n'est pas encore entrée. »« Ah, mademoiselle Marguerite, oh, mais je l'ai rencontrée. »« Comment, où, à quel moment ? » ?»« Oh, pardon, monsieur, c'est l'égoïsme d'une mère. » Je l'ai rencontrée vers 5 heures sur la route. Nous nous sommes croisés. Elle m'a dit qu'elle comptait pousser sa promenade jusqu'à la tour d'Elven. Ah, la tour d'Elven ! Oh, elle se serait égarée dans les bois. Oh, il faut y aller promptement. Qu'on donne des ordres. Monsieur de Bévalan commanda aussitôt des chevaux. J'affectais d'abord de vouloir me joindre à la cavalcade. Mais Madame Larocque et le docteur me le défendirent énergiquement, et je me laissai persuader sans peine de gagner mon lit, dont, à dire vrai, j'avais grand besoin. Monsieur Desmarets, après avoir appliqué un premier pansement sur mon bras blessé, monta en voiture avec Madame Larocque, qui allait attendre au bourg d'Elven le résultat des perquisitions que Monsieur de Bellavant devait diriger dans les environs de la tour. Il était 10 heures environ quand Alain vint m'annoncer que Mademoiselle Marguerite était retrouvée. Il me conta l'histoire de son emprisonnement sans omettre aucun détail, sauf bien entendu ce que la jeune fille et moi devions seuls connaître. L'aventure me fut confirmée bientôt par le docteur, puis par Madame Larocque elle-même, qui vinrent successivement me rendre visite, et j'eus la satisfaction de voir qu'il n'était entré dans les esprits aucun soupçon de ce qui était arrivé. J'ai passé toute ma nuit à renouveler avec la plus fatigante persévérance et au milieu des bizarres complications du rêve et de la fièvre, mon saut dangereux du haut de la fenêtre du donjon. Je ne m'y habituais pas. À chaque instant, la sensation du vide me montait à la gorge et je me réveillais tout haletant. Enfin, le jour est arrivé et m'a calmé. Dès 8 heures, j'ai vu entrer Mademoiselle de Porrette, qui s'est installée près de mon chevet, son tricot à la main. Elle a fait les honneurs de ma chambre aux visiteurs qui se sont succédés tout le jour. Madame Larocque est venue la première après ma vieille amie. Comme elle serrait avec une pression prolongée la main que je lui tendais, j'ai vu deux larmes glisser sur ses joues. A-t-elle donc reçu les confidences de sa fille ? Mademoiselle de Porrette m'a appris que le vieux monsieur Larocque est alité depuis hier. Il a eu une légère attaque de paralysie. Aujourd'hui, il ne parle plus et son état donne des inquiétudes. On a résolu de hâter le mariage de monsieur Laubépin, a été mandé de Paris et on l'attend demain et le contrat sera signé le jour suivant sous sa présidence. J'ai pu me tenir levé ce soir pendant quelques heures, mais si j'en crois monsieur Desmarets, j'ai eu tort d'écrire avec ma fièvre et je suis une grande bête.